Actu SF, les podcasts.
Bonsoir. On va juste attendre les applaudissements de l'autre côté. Bon. Merci d'être venu ce soir pour écouter nos discussions sur quand le jeu détourne nos codes. Pour faire simple et puis pour que ce soit plus agréable pour vous, je vais peut-être laisser chacun se présenter rapidement, peut-être son activité. Et nom, prénom, activité, on va faire. Et puis après, on va essayer de discuter, d'échanger autour du sujet de notre conférence. Et de réagir à votre question, à vos questions multiples, je l'espère. Tu veux commencer, Céline ?
Pourquoi pas. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, c'est Céline Tonon. Mon premier métier, c'était ingénieur en développement logiciel. Ensuite, pendant plusieurs années, j'ai fait à plein temps du militantisme, en revendication de droits humains. Majoritairement, j'étais présidente notamment du centre LGBT de Rennes pas mal active dans le militantisme féministe. J'ai pu me reconvertir ensuite dans le game design dans un premier temps, pour arriver à mes métiers d'aujourd'hui, qui sont d'une part l'enseignement de la programmation à des futurs game designers et game designeuses, et d'autre part je suis dans une maison d'édition de jeux vidéo indépendants. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de façon très synthétique.
Et c'était clair, mais je t'en prie, tu peux.
Bonjour. Diane Landais, je suis programmeuse de formation. J'ai cofondé il y a bientôt 3 ans un studio de développement de jeux vidéo indépendant qui s'appelle Accidental Queens, avec lequel on a sorti 3 jeux. 3 jeux qui tentent d'être originaux dans leur forme et qui tentent de parler de sujets du quotidien et aussi de sujets de société en utilisant le gameplay et la narration du jeu vidéo pour parler de ces thèmes-là de manière intéressante. Et voilà, moi j'ai pas 10 000 métiers à lister, je suis désolé, mais j'espère que c'est intéressant.
Mais et beaucoup de prestige.
Donc, bonsoir, Jérôme Fillet, moi je suis nantais, j'ai fait les Beaux-Arts à Nantes et le Fresnois aussi à Lille. Et j'ai une entreprise qui s'appelle le Crap Fantôme, donc je fais pas du jeu directement, je fais du storytelling, des expériences immersives in situ, principalement pour le patrimoine, le tourisme, la muséographie, etc. Mais donc j'utilise même le jeu ponctuellement sur les projets.
En fait, par rapport au thème qu'on va aborder, je pense que globalement, évidemment, vous avez été potentiellement choisi par rapport à ce thème-là, par rapport à la façon aussi dont vous traitez justement notre sujet dans vos productions, qu'elles soient donc jeux vidéo ou non, et la façon dont justement on va parler de cette histoire de code. Donc, c'est vrai que dans la description, on parle des codes culturels sociaux, il y en a d'autres. Il y a cette histoire d'usage qui est quand même important, notamment justement qui n'est pas liée forcément aux jeux vidéo. Et comment on s'approprie cette histoire de code et quand on en fait quelque chose, que ce soit pour servir simplement notre but narratif ou servir des causes et des propos, parce que le jeu vidéo est une œuvre au même titre que plein d'autres supports. Et qui dit œuvre dit aussi propos forts, et donc chose à transmettre. Et détourner ces usages peut paraître très intéressant. Parler de la société, de la façon dont on agit, dont on utilise les choses, etc. Je pense que vous avez chacun à votre façon un peu traité le sujet. Et je pense qu'on peut commencer par là, peut-être simplement, qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à votre travail et comment vous avez utilisé ça sur quelconque support, quelconque œuvre dans votre carrière. Je sais pas si tu veux peut-être commencer, Diane, sur ce sujet. Je pense que tu as des choses à dire.
Ok. du coup, un petit instant historique. Le studio dans lequel je travaille, on l'a monté en 2017. Un an avant, durant la Global Game Jam, qui est un événement international de création de jeux vidéo, j'étais avec une petite équipe de 4 personnes, que des gens que je ne connaissais pas. Et on a travaillé sur un jeu en 48 heures, pour le fun, un week-end, qui s'est révélé être un jeu qu'on a ensuite sorti commercialement et pour lequel on a monté le studio. Et ce jeu, c'est quoi ? Ça s'appelle A Normal Lost One.
Vas-y, promo, instant promo là.
C'est vraiment pas pour la promo, c'est juste pour justifier pourquoi je suis sur cette scène.
Tu peux le vendre un peu, que les gens découvrent aussi justement.
Il est vachement bien, achetez-le. C'est un jeu dans lequel on trouve un téléphone d'une personne qu'on ne connaît pas. Et on va pouvoir fouiller dans ce téléphone, dans les messages, dans la galerie de photos, dans différents comptes de réseaux sociaux, ce genre de choses. Et l'idée, c'est qu'en fouillant dans ce téléphone et en essayant de comprendre pourquoi, enfin, qu'est-ce qui est arrivé à cette personne, manifestement elle a disparu, mais qu'est-ce qui lui est arrivé exactement ? Donc on va être amené à se poser pas mal de questions. On est embarqué dans une espèce de presque d'escape room virtuel dans un téléphone, avec des mots de passe à trouver pour pouvoir progresser et ainsi de suite. Et du fait qu'on soit amené à se poser des questions sur la situation et sur ce qui s'est passé, on se pose aussi des questions sur cette personne, sur son quotidien. Et par un twist narratif que je vais peut-être pas révéler, du coup, ce sera plus intéressant. On apprend aussi à connaître cette personne qui a un quotidien tout à fait normal, d'où le nom Normal Lost Man, et pour autant qui peut nous être étranger. Et donc il y a des tas de choses à découvrir et à comprendre sur une personne qui pourrait exister. Et le jeu essaie en permanence de flouter la barrière entre le jeu vidéo et le réel. Alors c'est pas une interface d'iPhone, c'est une interface de téléphone inventée, mais elle essaie d'être toujours crédible et de justifier tous ses contenus pour que finalement, si on devait trouver un téléphone dans la rue, est-ce que les choses ne se passeraient pas exactement de la même manière en fait ?
Ce qui est intéressant par rapport à notre propos aussi, c'est que c'est à la fois une question de détourner des codes sociaux justement, ou un cadre dans lequel on s'est mis, et nous faire interroger aussi sur ce qu'on a avant de découvrir cette personne, ça va nous faire interroger sur ce qu'on pense des gens, etc. Mais il y a aussi le détournement de l'usage par le fait que justement on a ce téléphone et qu'on navigue on navigue sur notre téléphone finalement. Donc il y a ces deux aspects que vous travaillez aussi dans le jeu vidéo, autant l'usage par le gameplay, par l'interface, que par le propos en lui-même.
Ouais, en fait c'est même pas un hasard, c'est que le thème de la jam, donc de l'événement dans lequel on a créé ce jeu, le thème c'était rituel. Et on a interprété ça au moins 10 manières différentes, et on a essayé de le faire rentrer au chausse-pied dans cette expérience de jeu. Et on a identifié des rituels du quotidien, au sens les rituels sociaux, la fête d'anniversaire qui doit se faire en famille, mais aussi les rituels au sens les usages et les idées reçues, les préjugés. Donc l'opinion qu'on peut avoir des gens avant de les rencontrer, et comment cette opinion peut changer quand on commence à les connaître. Il y a aussi tous les rituels au sens la manière dont on va communiquer avec les gens. Peut-être que, je sais pas, on a un check secret et c'est un rituel entre nous, tu vois. Donc ça se retrouve dans un téléphone, dans la manière dont on va communiquer sur Messenger, par SMS et par mail, qui sont trois manières de communiquer totalement différentes et avec différentes personnes. Donc il y a un peu tous ces aspects de qu'est-ce que c'est les rituels qu'on a aujourd'hui, c'est quoi les choses qui sont ritualistiques dans notre quotidien, comment ça se retrouve dans un téléphone, et tous ces éléments là on a essayé de les mettre en évidence et aussi de les questionner ou de les rendre intéressants, et ils viennent tous interroger une partie de ce personnage en fait qui est central dans le jeu, dont on cherche l'identité, dont on cherche l'histoire, et donc tout ça se retrouve à travers la manière dont nous on utilise un téléphone, qui est aussi la manière dont ce personnage utilise son téléphone, sa manière de communiquer, sa manière de vivre, d'échanger en général. Donc à tous les niveaux, c'est une interrogation de nos usages, de nos codes.
Et du coup, par rapport à cette question aussi de finalement de déconstruire ces questions-là et de les attribuer dans notre façon de travailler, je pense aussi que toi tu as peut-être aussi une autre vision, même sans vouloir trop m'avancer, peut-être en réaction si tu veux me contredire, même dans la façon aussi de produire l'œuvre, où là je pense que tu as aussi de nouvelles choses à apporter, même dans la façon dont vous travaillez, vous, carrément dans la construction de l'œuvre, hors même du propos qu'elle tient.
Oui, alors je voulais rebondir aussi sur le propos de Diane, parce que c'est vrai que ce jeu dont on fait la promo, mais qui a quand même quelques années, donc les enjeux sont quand même plus distillés aujourd'hui, mais ce jeu le mérite parce que Il a une entrée qui est quand même hyper intéressante sur, quelque part, la réduction du coût pour arriver à un impact social. C'est-à-dire que vous avez des objets culturels et des produits de façon générale qui vont être à impact social, mais qui vont être estampillés comme tels et pour lesquels finalement on va se retrouver avec un propos qui va ne parler que aux personnes déjà convaincues. Ce qui constitue en soi un problème et un obstacle au message, parce qu'à partir du moment où on ne s'adresse qu'à des gens qui étaient déjà volontaires pour recevoir tel type de message formaté d'une certaine manière, finalement on a une perte d'audience qui est très très forte. Là on a un concept qui est quand même fort et qui est rattaché au quotidien, et tu l'as dit, au quotidien ritualisé des gens, donc qui s'ancre très très fortement dans leurs habitudes, recevoir des SMS, se connecter sur tel ou tel site de rencontre ou autre, ça fait partie du quotidien des gens et de ce qu'ils ont l'habitude de faire littéralement avec leur smartphone. Et là, avec une fausse interface de smartphone, le jeu est jouable sur PC mais aussi sur son téléphone à soi, donc quelque part il y a une mise en abîme. Et la marche est d'autant plus faible que ça permet de convaincre des gens qui ne jouent pas habituellement. Et ça, dans nos militantismes, et quand le jeu est sorti, déjà j'avais eu la chance de pouvoir y contribuer aussi à ma modeste échelle, en faisant des relectures hein, notamment, et en faisant des suggestions sur certains contenus. C'était vraiment chouette de voir un jeu qui pouvait ouvrir une porte différente dans certains combats, dans certaines façons de parler de certains sujets, parce que ce sont des luttes, que ce soit alors là je vais parler de toutes les luttes sociales hein, que ce soit les luttes LGBT, féministes, l'écologie ou peu importe. Il y a un autre jeu qui est sorti aussi à peu près dans les mêmes périodes, Enterre-moi mon amour, qui parle là où on est on a son téléphone et ça reproduit une interface de SMS et on discute avec une jeune Syrienne qui veut se casser parce que ça commence à sentir très très mauvais là-bas. Et donc bon, là l'entrée à impact social est quand même plus frontale, mais il y a quand même ce sujet de on intervient avec un objet du quotidien proche des gens et qui permet tout de suite de happer des non-joueurs et des non-joueuses. Donc ça déjà, juste pour rebondir rapidement, ça c'était un peu le côté génial, l'un des côtés géniaux de ce jeu-là et d'autres qui sont sortis à peu près au même moment avec des idées similaires, qui permettent déjà de discuter autrement de certains sujets, parce que c'est par la diversité des approches, parfois on entend dans les mondes militants « Ah non, mais la bonne façon de faire, c'est celle-là » ou « Le bon discours à avoir, c'est celui-là ». Personnellement, j'ai une approche qui est beaucoup plus flexible de ce genre de sujet, qui est de dire « Non, non, mais la bonne approche dans la militance, la bonne approche, c'est celle qui te parle avant tout, c'est celle qui te fait te sentir confortable avec ton sujet et avec ton auditoire. Et à partir de là, tu acquiers une stabilité dans ton discours, dans la façon de parler aux gens et dans ta propre énergie, parce que souvent, c'est des sujets qui vont quand même impliquer fortement vis-à-vis de l'identité, vis-à-vis de qui on est, etc. Donc à partir du moment où on trouve son bon créneau et sa bonne façon à soi qui nous est moins coûteuse que d'autres, là, ça, c'est un militantisme qui est vertueux. Donc voilà, ça, c'était pour la parenthèse des militantismes qu'on rouvrira peut-être plus tard. Pour ce qui est de ta question en particulier sur la façon justement de produire, effectivement, il y a aujourd'hui pas mal de différentes façons de promouvoir des systèmes de production qui vont être plus horizontaux et qui vont mettre ou les joueurs et joueuses ou en tout cas les travailleurs et travailleuses à un niveau d'égalité plus acceptable dans le système de production et dans la façon de pouvoir penser l'œuvre culturelle dont on est en train de parler en fait. Et ça, ça a tout plein d'impact en fait sur le produit fini, sur le jeu auquel on est en train de jouer, parce que évidemment que quand on laisse une foule, alors une foule ça peut être de tout dimensionnant, ça peut être celle qu'on représente aujourd'hui, ça peut être une foule de 10 000 personnes et ça peut être un groupe de 15 à 20 personnes, c'est déjà une forme de foule. À partir du moment où les gens sont tous à égalité, peuvent donner des éclairages différents alors là y a, par exemple il y a une expérience qui est menée par une association qui s'appelle Ethical Games et une plateforme qui s'appelle Red Bricks. Alors j'avais travaillé aussi dans la société Outerways qui faisait la promotion avant que l'association soit créée. Donc cette plateforme Red Bricks, c'est une plateforme de production participative de jeux vidéo. Donc le principe c'est que les créateurs, créatrices de jeux viennent déposer leurs jeux et après, par le biais de commentaires, par le biais de financement par briques, etc., il peut y avoir des interactions qui sont déjà très tôt en amont dans la phase de prototypage de la création du jeu. Et ça, ça permet déjà d'avoir d'autres messages et d'autres ouvertures, parce que quand on est dans la posture de création de jeu, c'est très très compliqué finalement d'avoir un produit qui va... Souvent d'ailleurs on élude complètement très tôt dans la phase de production d'avoir un jeu qui va parler, qui va s'adresser vraiment à tout le monde. On fait un tri très très vite. À partir du moment où on inclut les joueurs et les joueuses, on va pouvoir avoir d'autres regards et d'autres possibilités pour justement parler à plus de monde ou d'une façon plus fine.
Ce qui est intéressant et ce qui m'intéresse toujours, c'est de revenir au fait que le jeu vidéo, on a tendance à l'oublier parce qu'on parle souvent d'industrie avant de parler d'industrie créative ou d'industrie artistique, dans le sens où on crée une œuvre et on pense plutôt produit qu'œuvre. Et quand on est une œuvre, moi souvent j'apprenais en études d'art, en histoire de l'art, qu'un artiste passait autant de temps à concevoir son art que d'interroger son art en fait. Et dans l'idée aussi de l'interrogation des deux, c'est à la fois de parler des codes qu'on pourrait avoir, des codes sociétaux, etc., de les interroger dans notre œuvre, mais aussi dans la façon d'accomplir notre œuvre et de pratiquer notre art finalement. Et c'est ça où je voulais aussi que tu partages ton expérience et ton point de vue là-dessus. Mais ce qui intéresse aussi, c'est peut-être voir aussi par extension un petit peu, parce que pour toi, Jérôme, du coup, on peut aussi considérer que tu parles d'œuvre interactive, et aussi la famille plus élargie du jeu vidéo, et aussi tu as une expérience là-dedans, c'est plutôt toi là-dedans où tu vas.
Oui, bah alors les codes qu'on détourne au maximum, que j'aime bien faire, c'est de dire travailler sur la frontière entre fiction et réalité, mais c'est un peu ce que vous faites aussi, ce que vous racontiez, c'est à quel moment travailler là-dessus. Et quand on est en plus sur des projets, moi, où c'est des projets où on va valoriser un patrimoine, où on va être dans un musée avec des contenus historiques qui sont réels ou des choses à apprendre aux gens, etc. Et en fait, donc on est dans un objectif comme ça d'éducation. Et en même temps, je vais utiliser un storytelling qui va être décalé entre fiction et réalité. Et donc, les gens, là, ne savent plus où ils sont. En fait, c'est si on allume un film, qu'on allume un jeu vidéo ou qu'on ouvre un livre, on sait qu'on démarre la fiction, parce qu'on démarre une œuvre. Et là, les gens arrivent dans un lieu de patrimoine ou dans un musée et ils ne savent pas trop du tout à quoi s'attendre, parce qu'en plus, dans la communication, on va être dans quelque chose de très flou, etc. Et ils arrivent sur, en Charente par exemple, ils arrivent sur un chantier d'archéologie sonore et on leur dit, bienvenue, on leur explique tout le principe de l'archéologie sonore. Il y a des bulles de son qui sont emprisonnées dans la vase depuis des dizaines ou des centaines d'années. Donc ces bulles de son, on va les forer avec des machines un peu étranges, etc. Donc on va vous expliquer ça. Et les gens arrivent, on leur dit pas c'est un spectacle ou c'est une expérience interactive comme ça. Ils arrivent et il y a aucune indication là-dessus. Ils sont dans une scénographie, dans une forme un peu théâtrale. Et on va les engager comme ça avec ça, et on va en même temps leur apprendre des choses sur le réel, sur le territoire. Mais le tri ne va pas forcément être fait entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Et c'est une grande question qu'on a généralement avec les partenaires ou les clients, c'est à quel moment c'est normal de faire ça, ou à quel moment il faudrait indiquer aux gens ça aussi. Mais justement, ça questionne beaucoup sur sa propre création, parce qu'on se dit on est dans une société actuelle là où les gens croient beaucoup de choses rapidement et ne font pas du tout le tri entre ce que peuvent dire des scientifiques ou ce que peut dire un président américain ou ce que peut dire leur voisin sur les réseaux sociaux. Donc là, moi, je le vois en racontant les histoires que je fais, que c'est très ou trop facile de détourner les codes justement de la création pour faire croire des choses aux gens. Donc, y a des moments où c'est très marrant pour un créateur, où il faut en jouer, et il y a d'autres où ça peut permettre justement, si les gens se sont fait avoir, de leur dire vous avez cru à quelque chose, et c'est important de questionner tous les médias ou toutes les formes, même si c'est des formes créatives ou toutes les formes de restitution qu'on vous donne, pour ne pas gober n'importe quoi non plus, quoi.
Alors, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est on pourrait aborder pratiquement la frontière morale, de se dire on a l'histoire d'utiliser... En fait, dans nos métiers, on va dire que, et c'est presque un fait, on sait tous qu'on doit apprendre à comprendre nos spectateurs, nos clients, ce qu'on veut, en comprendre les codes de l'époque, savoir comment ils les utilisent, les détourner à notre avantage. Ça peut être pour raconter quelque chose, pour transmettre une idée, un propos, une communication, de l'apprentissage ou de l'éducation. Ça, ça peut être compliqué et tendancieux. C'est-à-dire qu'on peut à la fois donner de belles choses et aussi donner, expliquer ou convaincre de façon des choses... On va donner de terribles exemples, mais on pourrait l'utiliser de n'importe quelle façon. Ça vous arrive d'interroger justement la frontière qu'on se donne à ce qu'on peut transmettre, la façon dont on peut diriger notre spectateur par les sentiments, par les émotions, la façon dont on va le guider dans le processus de narration. Je sais pas si ça vous inspire une...
Pour nous, c'est une question qui est assez constante parce qu'on a essayé de toujours s'interroger sur les messages qu'on allait délivrer à travers nos jeux, de manière consciente, mais aussi de manière inconsciente. Et on considère qu'il y a une forme de responsabilité d'auteur dans le jeu vidéo, comme ça peut être le cas dans films, séries, livres, ce que tu veux, dans le sens où le jeu vidéo étant un élément culturel, il va forger patrimoine culturel des gens qui vont jouer aujourd'hui. Et du coup, de fait, ça va aussi forger le patrimoine culturel des gens qui viendront après, peut-être des années après. Et ça, c'est très facile à observer. Alors, pour les aspects positifs, donc les mêmes références qu'on se traîne depuis des siècles, les pirates qu'on voit dans Pirates des Caraïbes, ils viennent pas forcément des pirates tels qu'ils étaient pour de vrai, ils viennent d'une autre œuvre qui s'était inspirée d'une autre œuvre, qui s'était inspirée d'autre chose. Y a aussi des aspects négatifs à ça. Je ne sais pas quel exemple on peut citer, mais...
Je sais ce qu'on pourrait citer, je ne sais pas ce qu'on doit citer ou pas.
Mais... On va prendre quelque chose de relativement inoffensif, mais pour des gens aujourd'hui en 2019, le nanisme, c'est Tolkien ou c'est Fort Boyard. Est-ce qu'on a d'autres éléments culturels qui l'ont représenté ou qui l'ont représenté correctement? Je ne crois pas, pas beaucoup. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? C'est difficile à quantifier. En tout cas, en termes d'information et d'accès à la réalité du monde dans lequel on vit et des gens avec lesquels on vit, on est loin d'être bien servi par la culture sur cet aspect-là. Par
exemple. Ouais, parce qu'il y a ce côté en fait juste de faire, c'est-à-dire qu'une œuvre à un moment d'honnêteté va se nourrir de codes anciens et créer ceux de demain. Et une espèce de transmission comme ça.
Pour moi, là-dessus, il y a deux sujets hyper intéressants qu'on est en train d'ouvrir. Le premier, et ça rejoint la précédente question que tu m'avais posée, c'est la question de la production et de l'accès justement à la création. Là-dessus, c'est là-dessus qu'on bosse avec la maison d'édition où je bosse, qui s'appelle Abiding Bridge. Donc, on est une structure de l'économie sociale et solidaire et on va vers les créateurs et créatrices indés qui n'ont pas créé de société, qui sont un peu dans la galère comme vous et moi, et qui veulent accéder à la production et qui veulent accéder à ces infrastructures-là, donc par le biais de formations aussi sur le droit d'auteur, pour un peu comprendre le cadre juridique et comprendre comment on fait aujourd'hui pour sortir un jeu et pour qu'il puisse rencontrer son public. Parce que aujourd'hui, faire un jeu, c'est déjà un sacré boulot, mais une fois qu'on l'a fait, une fois qu'il est quasiment prêt à sortir, qu'on en est déjà un peu fier et tout, comment on fait pour lui faire rencontrer le public? Et là, il y a déjà un vrai enjeu, et pour moi un vrai enjeu de démocratie, qui est la répartition des ressources. À partir du moment où c'est toujours la même catégorie de personnes, où c'est toujours le même profil type de personnes qui peut s'exprimer, là on a un gros problème, on a une crise de démocratie, parce que les voix plurielles, elles s'éteignent, et il y a une caste dominante qui vient rabâcher toujours le même discours, et on s'en plaint depuis suffisamment d'années dans les milieux féministes pour pouvoir changer la donne et pouvoir permettre à tout un tas de personnes minorisées, je préfère ça plutôt que de parler de minorité, parce qu'au bout d'un moment, il y a bien un acte conscient qui a été fait de réduire ces gens à des minorités. Là, le fait de permettre d'accompagner dans l'accès à la parole et dans l'accès à une forme de production, parce que même si on parle bien d'œuvre, au bout d'un moment, pour acquérir une compétence et la travailler sur la durée, il faut aussi des financements. Donc voilà, ça pour moi c'est un premier vrai sujet dans le sujet qu'on était en train d'ouvrir. Et tu étais en train de parler de précisément là, ça même Ça m'a zappé pendant que j'évoquais mon premier point.
Je sais pas, mais je peux rebondir s'il faut.
Je t'en prie.
Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, amener plus de volume aux voix qu'on n'entend pas assez, c'est ce qui permet, je pense, de permettre à tout le monde de respecter cette responsabilité d'auteur. Et je pense plus clairement que ça, la responsabilité des auteurs aujourd'hui, alors dans le jeu vidéo, mais d'une manière générale dans la création, c'est pas d'avoir toutes les bonnes réponses, et c'est probablement pas de penser à tout, mais c'est de se poser systématiquement les questions, de faire des choix qui sont des vrais choix éclairés et qui sont pas j'ai fait ça par habitude et de fait ce n'est pas un choix.
Ça m'amène au deuxième point que je voulais.
Parfait.
Donc c'est génial.
C'est de la rappeler, parfait.
En fait, il y a quelques années, j'avais traduit un jeu de rôle, mais il n'est pas encore sorti malheureusement. Il est toujours aux mains de la maison d'édition qui est sur d'autres dossiers pour le moment, qui s'appelle Monster Heart 2. Monster Heart, bon, c'est un jeu qui a été écrit par une Canadienne, qui s'appelle Avril Elder, et qui parle d'adolescents et d'adolescentes qui ont une monstruosité et dont la monstruosité est à la fois une métaphore et à la fois réelle. C'est-à-dire qu'on va avoir des vampires qui sont à la fois des véritables vampires, mais aussi des personnes qui ont un problème avec la notion de consentement. Il va y avoir des loups-garous qui sont vraiment des loups-garous, mais aussi des personnes qui ont des accès de violence et de colère et qui doivent les régler. Des fantômes qui sont des fantômes et qui ont un problème de timidité maladive et qui vont avoir tendance à épier les gens plutôt qu'à aller leur parler, etc. etc. C'est un jeu queer dont la créatrice est une femme trans bisexuelle. Et le principe, c'est que et là on parle de détourner les codes aussi d'une certaine façon, on va s'éloigner du classique ou exploration de donjons ou PVP avec plutôt du drama sitcom, et ce qui va compter c'est les interactions entre les gens, ce qui va amener du contenu queer, ce qui va amener plein de choses intéressantes. Et Avril Elder, dans sa deuxième version de Monster Heart, qui est beaucoup plus mature et où ça se voit qu'elle a vraiment pris le temps de réfléchir à pas mal de choses, parle de ce qu'elle évoque comme étant trois cercles de responsabilité, qu'elle évoque comme étant concentriques. Ces cercles de responsabilité, bon, ça s'applique au jeu de rôle, mais ça peut s'appliquer aussi aux jeux vidéo. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est d'abord la responsabilité vis-à-vis de son audience directe, c'est-à-dire... En jeu de rôle, les joueuses et les joueurs qu'on a autour de la table, on a une responsabilité vis-à-vis de ces personnes. Pas là à pas les agresser, parce qu'il y a des façons de, quelque part, il y a des façons de traiter ces joueuses et ces joueurs qui vont être de véritables agressions vis-à-vis de ces personnes et non pas que des personnages. Donc déjà ça, c'est une responsabilité à part entière. Responsabilité par rapport à l'audience de façon globale, parce qu'on ne s'adresse pas que, et particulièrement en jeu vidéo où on a tout l'enjeu du streaming, on s'adresse pas que aux gens qui vont jouer.
À notre cible, aussi. Celle qu'on a choisie.
Voilà, mais... on va s'adresser à un public beaucoup plus large. Et la troisième responsabilité, celle qui est beaucoup plus insidieuse et beaucoup plus compliquée à se représenter, c'est la responsabilité par rapport aux personnes qui sont dépeintes par les personnages. Et parce qu'en fait, il y a cet héritage en fait, qu'on a. Je vais prendre un exemple qui, pour nous, personnes européennes, nous paraît plus lointain, même si en vrai historiquement c'est plus compliqué que ça, mais nous ça nous paraît plus lointain, les Amérindiens, les personnes natives américaines nous on a une représentation des cow-boys et des Indiens avec tous les westerns, avec tout plein de choses. C'est des personnes, pour nous c'est très loin de nous, c'est littéralement sur un autre continent, et on n'a pas l'impression de porter une responsabilité par rapport à ces gens-là. Toujours est-il que le cliché qu'on porte aujourd'hui sur les Indiens d'Amérique, les Amérindiens, pour parler plus correctement, c'est, on l'hérite de western qui ne se sont pas inspirés de ces personnes là mais qui se sont inspirés d'autres westerns, et ainsi de suite, jusqu'à remonter à des personnes qui ont réellement existé et qui en fait ont potentiellement rien à voir avec aujourd'hui ce qu'on raconte dans les œuvres de fiction. Donc ça c'est vraiment, et en fait ça peut faire du mal parce que déjà ces personnes là elles existent toujours et elles sont toujours précarisées, enfermées dans des réserves, etc. Et nous on a l'impression de parler avec les mains de personnes totalement fictives. Donc on crée réellement un phénomène social à partir d'œuvres qui vont paraître inoffensives.
Ça me met une question en tête, mais que j'aimerais bien qu'on aborde si on a le temps après, mais de savoir si, d'après vous, on a le droit, et je me la pose en tant que professeur, parce que j'enseigne à mes étudiants en concept art, qu'on a le droit en tant qu'artiste d'explorer n'importe quel sujet. Mais c'est vrai que je me pose souvent la question de est-ce qu'on a le droit d'aborder un sujet qui ne nous concerne pas, semble-t-il, d'aborder en fait en tant qu'artiste de parler de sujets dont on n'est pas concerné parce que en soi on pourrait considérer que on n'en a pas tous les biais ou on n'en a pas totalement conscience. Et quelle est notre légitimité là-dessus? Mais si on a l'occasion, j'aimerais bien qu'on revienne dessus, parce que je pense que la discussion peut être intéressante. Mais j'aimerais bien aussi avoir ton point de vue, Jérôme, sur le fait de peut-être cette relation un petit peu différente, parce que tu n'es pas forcément à l'initiative créative du besoin initial, c'est-à-dire que nous, on crée notre besoin, et on va choisir la cible le plus souvent, mais pas forcément. Mais toi, en l'occurrence, tu réponds à un besoin déjà existant. Et comment tu entrevois cette responsabilité-là, en tant que créatif, par rapport aux besoins de ton client?
La responsabilité, elle est auprès du public final, justement. Enfin, c'est généralement une responsabilité d'éducation, justement. Et on est souvent sur des questions de lieu de patrimoine ou de musée ou autre, où il y a justement ce que tu disais tout à l'heure, aussi des publics, ce qu'on appelle empêchés, enfin, des gens qui vont être impressionnés d'aller au château à Nantes ou au musée d'art parce que c'est des bâtiments très impressionnants, ou d'aller sur des lieux de patrimoine, ou de lire un livre ou d'histoires compliquées, etc. Là, c'est de dire. La responsabilité, c'est d'arriver à faire, à comprendre des choses historiques justement, et de dire, par exemple, les Indiens, ils sont pas comme dans les films, ils sont, c'est un peu plus subtil que ça, et d'engager les gens par la narration là-dedans, et on voit que les gens retiennent beaucoup plus de choses par la narration et par ces codes-là, et on peut justement utiliser les clichés au départ en partant des clichés des films que les gens connaissent, des séries hautes. Et au fur et à mesure détricoter ça et les emmener autre part. Donc ça, c'est super intéressant. Donc la responsabilité, elle est là-dessus. Et puis, on peut aussi... nous, on fait souvent des ateliers aussi à une étape du travail, des ateliers de création avec des enfants, des adultes, sur une phase du travail pour les engager dans la narration. Nous, on gère la trame narrative, elle est cadrée, etc. Mais dire, vous allez raconter... telle partie de l'histoire, on va vous donner les billes, on va vous apprendre des choses sur la botanique, etc., pour vous créer, vous allez créer des plantes extraordinaires, etc., mais vous allez déjà apprendre des choses, et après vous allez restituer aussi des choses, et une partie de l'histoire va être racontée par le public, et le fait de faire ça, ça ouvre vraiment les projets, ce qu'on disait tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut faire au maximum pour que les gens se sentent pas, n'aient pas envie d'aller vers un projet, ou se sentent pas concernés par un projet. Et faire attention aussi à au problème de la nouvelle technologie qui peut être rebutant pour plein de gens, etc. Et il y a plein de lieux, de musées, et tout ça, qui disent justement il faut aller sur des choses sur smartphone ou autre, etc. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec ça, et qu'on peut faire beaucoup d'interactions et de choses interactives avec des objets connectés, avec des choses, il y a plein de dispositifs différents qui permettent d'être interactif, d'être dans le jeu ou d'être dans la narration, mais sans être forcément avec un écran et quelque chose qui va retenir.
Et petite question complexe, et peut-être tu ne pourras pas forcément rentrer dans les détails, mais est-ce que ça t'arrive parfois de te sentir obligé, limite, d'éduquer sur les sujets que tu décrites? Parce que toi, tu vas te renseigner, tu dois déconstruire le sujet que tu as passé ton client. Est-ce que ça t'arrive de le faire directement avec ton client? Parce que ce n'est pas forcément un sachant. C'est-à-dire, parfois, ça peut être un musée, ça peut être quelqu'un qui est compétent dans le domaine qui t'a confié en termes de diffusion.
Souvent, ils savent mieux que moi quand même. Enfin, après, ça dépend si c'est des historiens sur un pays d'arrêt d'histoire, ou si c'est des gens qui gèrent qui gèrent des expositions dans un musée. Ils connaissent pas chaque sujet d'exposition à la base. Et effectivement, faut se renseigner pas mal. Par contre, faut plutôt éduquer les gens avec qui je vais travailler, les graphistes ou les gens qui vont écrire une partie du projet, ou des scénographes, des développeurs, etc., sur le projet, pour que tout fasse sens. J'aime bien que chaque élément du projet fasse sens justement avec l'histoire et avec le sujet final, quoi.
Mais ça t'arrive jamais d'être bloqué avec un client qui veut te transmettre ou utiliser peut-être des stéréotypes à mauvais escient ou autre? En général,
moi j'ai plus de problèmes pour que les gens comprennent la méthode de dire on va raconter une fiction immersive. Au lieu de faire avant de faire une exposition, avant de faire une expérience, une expérimentation, on va raconter une fiction immersive. Donc c'est-à-dire que si c'est immersif, tout doit faire sens. Donc c'est-à-dire que le smartphone, ça devient autre chose, ou tel objet, ça devient quelque chose pour forer le son, faire de l'archéologie sonore. Donc tout doit donner du sens. Et dans la communication, d'essayer de dire, et dans la médiation, il faut être entre fiction et réalité. Donc justement, je ne présenter les choses de manière originale. Donc c'est plus une formation. Des clients là-dessus pour dire non, on peut pas on peut pas, voilà, on peut pas dire ça parce que c'est pas, si on dit ça, on sort de l'histoire. Donc pour moi, il faut que les gens soient dans l'histoire de la communication avant la visite jusqu'à la médiation quand ils arrivent sur place et puis après dans tout le dispositif et même après la visite, qu'ils restent dans l'histoire au maximum. Donc c'est plus un et dans l'histoire avec un voilà l'histoire qu'on a conçue et après que cette histoire fasse sens avec le avec ce qu'on veut raconter, la grande histoire, comme on dit.
D'accord. Et juste pour finir là, sur le temps qui nous reste avant de passer aux questions, justement pour vous faire interagir un peu avec nous, est-ce que la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce que vous voulez réagir dessus ou réagir à ce qu'a dit Jérôme ?
J'ai peur que de répéter un truc qu'on a déjà dit, en fait, mais je vais reformuler un peu. Je suis vachement d'accord avec ce que tu dis, Jérôme, en fait. Moi, ça me fascine la manière dont je pense nous trois et sûrement des tas d'autres gens, on interroge la frontière entre la réalité et la fiction. Et en faisant ça, on interroge la frontière entre raconter une histoire et apprendre des choses aux gens, en fait. Et en floutant l'un, on floute aussi l'autre. Et finalement, qu'est-ce qu'on retient de cette expérience où on est en train de forer des sons ? Bah, c'est à la fois des choses concrètes et réelles, et en même temps un peu de rêve et un peu de une échappée vers quelque chose de chouette. Et le fait de flouter volontairement cette frontière, j'ai le sentiment que c'est prendre le contrôle de ce truc qui arriverait de toute façon, qui est, on fait du contenu culturel, on fait du contenu créatif qui va de toute façon délivrer des choses aux gens, mais en mettant la main sur cette frontière, on met la main sur cette notion d'apprentissage. Donc on sait consciemment ce qu'on va apprendre aux gens du fait qu'on cherche à le camoufler. Et je trouve que c'est très intéressant de... Plus on cherche à le masquer, plus ça veut dire qu'on a bien compris ce qu'on était en train de délivrer, en fait.
Surtout que ça bouge. Bah, j'ai souvent le cas aussi dans des lieux de patrimoine ou des musées où les historiens disent bah, en fait, il y a quelque chose qu'on sait à un moment, mais en fait, il y a un moment où ça peut changer. On peut dire, en fait, bah, non, c'était pas du tout comme ça. Et finalement, les Indiens, bah, ils étaient... Voilà, ou tel... ça s'est pas passé comme ça, on a découvert des nouvelles choses, donc c'est bien aussi que les gens comprennent que c'est pas quelque chose de figé et que l'apprentissage il est permanent et qu'il faut douter, enfin il faut c'est la frontière à l'équilibre entre dire il faut douter de tout un petit peu et sans tomber dans le créationnisme ou de dire ou des choses où on va voilà on va douter de absolument de tout et croire à n'importe quoi. Voilà,
et la démarche créative, c'est une démarche de pédagogie. Hein. Tous les profs diront que c'est en enseignant leur matière aussi qu'ils en viennent à la comprendre sous d'autres angles. Et donc là, c'est la même chose avec la création de jeux, finalement. C'est que, évidemment, qu'on peut parler de tout et que ce serait même dommage de s'empêcher des sujets, mais c'est en créant avec aussi les gens. Parce que, évidemment, quand on va créer sur un sujet... mais en se passant de la vie des gens qui sont dépeints, qui sont forcément on collectionne des biais, on collectionne des références qui vont faire qu'on va pas tomber juste parce que justement on s'est privé de ce alors que justement en allant chercher les personnes pour aller parler au mieux de leur quotidien et en l'ancrant dans un objet, dans un téléphone, dans quelque chose de très concret pour les gens. Ben là, tout de suite, on arrive à des analyses beaucoup plus fines et qui en viennent à nous surprendre nous-mêmes.
Il y a ce côté-là où on doit à la fois être conscient de tous les stéréotypes, d'être complètement dans notre époque, d'avoir les méthodes, les us et coutumes, savoir quels sont les stéréotypes du moment, les connaissances des gens à qui on parle, pour à la fois peut-être les assumer totalement et les utiliser, les tourner à la dérision, les prendre telles quelles, les contredire, les choquer. Et on a tendance aussi un petit peu, et là où on parle, c'est la différence entre un jeu vidéo qui va être une œuvre et un jeu vidéo qui va être un produit, est souvent faite par les spécialistes par la différence entre un produit va se contenter de prendre notre culture à nous, la dépeindre d'une manière exagérée et s'en contenter, alors qu'un artiste va interroger sa propre époque, la contredire, la faire évoluer, la faire bouger. Et on va avoir un petit peu cette différence-là.
C'est la force d'un film comme Joker en ce moment, par exemple, c'est-à-dire tu prends un stéréotype ou tu prends un personnage qui est hyper connu, qui lui-même est inspiré de L'homme qui rit de Victor Hugo ou de Lovecraft avec avec Arkham, etc. Et tu prends ce personnage-là qui est hyper connu, qui est codifié dans plein de films, plein de comics, plein de jeux vidéo, etc. Et en fait, tu vas l'utiliser pour faire un film ultra politique sur l'Amérique actuelle. Ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire comment t'embarques Et voilà, et Todd Phillips, le réalisateur, n'a pas besoin d'être un clown psychopathe ou de l'avoir été ou d'en avoir connu un pour faire ce film, je pense. Enfin, peut-être qu'il en a connu un ou qu'il a déjà tué des gens, je ne sais pas. Mais c'est, il utilise ce code-là, ça attire des millions de gens en salle, et en même temps, il fait un film ultra politique. Ça, moi, je trouve ça brillant, quoi.
Et pour autant, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure sur la distinction entre le produit et l'œuvre. Alors certes, il y a des démarches, on va reprendre ton exemple parce qu'il est très bien, qui vont prendre cet élément de notre culture pour leur faire dire autre chose ou pour aborder un sujet comme une porte d'entrée vers quelque chose. Mais il y a aussi tous les produits qui sont en fait des œuvres, qui ne vont pas interroger forcément ce matériau de base, qui vont peut-être se contenter d'être exactement dans ce qui s'est fait 10 ans avant, 20 ans avant et refaire les mêmes choses. Mais de fait, il contribue aussi à la culture en ancrant ces choses-là et en les remettant sur le devant de la scène. Encore une fois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, on ne sait pas. Mais sans les 10 jokers d'avant, certains étant même très très dans les cases et dans les clous, on n'aurait pas le Joker d'aujourd'hui parce que juste les gens ne sauraient pas qui c'est. Donc finalement, est-ce qu'ils n'ont pas eux aussi contribué à
c'est
ça.
C'est de la sédimentation, quoi, en fait.
J'irai même plus loin parce que en fait pour moi cette distinction elle est d'autant plus floue qu'il y a des tas de produits qui sont des œuvres et vice versa.
Complètement, tout est mélangé et justement c'est ouais. Un peu pour vous.
C'était la question provocatrice, mais parce qu'effectivement on pourrait parler de Normal Lost Phone, mais comme de tout un tas de jeux qui sont à la fois des produits et des œuvres, parce que bah, c'est pas possible de trancher totalement avec son époque et on peut pas abattre toutes les cloisons d'un coup, c'est pas possible en fait. Enfin, c'est le jeu, l'œuvre culturelle qui va abattre tous les murs d'un coup, c'est pas possible. On est obligé de se baser sur quelque chose auquel les gens vont devoir faire appel pour se faire des représentations, pour... et là on va forcément avoir un lot de clichés qui font partie du véhicule culturel des gens et de leur voilà. Et à la fois on peut avoir une œuvre qui va questionner d'autres aspects, qui va, enfin, à la fin des, au début des années 2000, il y avait un jeu qui prenait une interface de système d'exploitation fantasmé. C'était Uplink Hacker Elite, où on jouait un hacker qui allait hacker des serveurs, etc. C'était le futur du passé parce que ça se passait en 2010. Aujourd'hui, ça nous fait sourire. Mais à l'époque, on était sur de la critique. Qui allait questionner la neutralité du net, qui allait questionner tout un tas de sujets qui sont même d'actualité en quasi 2020, et pour autant qui sur d'autres aspects de société n'avaient pas encore questionné des choses très patriarcales, très, mais ça avance aussi à son rythme et selon les jeux sur ce qu'on peut faire ou pas faire et pour garder une cohérence narrative dans l'esprit des gens. Donc pour moi il y a des deux forcément.
Je pense pas qu'on puisse aborder la création comme une liste de cases à cocher, et une fois qu'on les a toutes cochées, c'est bon. Et je sais que c'est vrai pour le jeu vidéo, j'imagine que c'est vrai pour toi aussi. Justement parce qu'on peut pas avoir l'œuvre ultime qui va tout déconstruire ou tout faire bien. L'idéal étant de se rapprocher d'un système dans lequel on a questionné un maximum de choses, et dans lequel on a au moins essayé de faire le moins de mal possible. Alors, notion de bien et de mal, c'est encore un peu complexe. Mais si on s'est posé la question et qu'on s'est rendu compte que ça c'est pas très bien et qu'on le fait quand même, là il y a un problème en fait.
Mais c'est une question complexe parce que on peut dire aussi que la morale fait partie de la culture, et donc si tu critiques ta culture, tu critiques la propre morale sur laquelle tu as basé ta critique de la culture. Donc tout ça devient complexe, mais il me fait poser plein de questions. Ah. Et on va bientôt passer aux questions, et c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé réagir sur ça et vous faire discuter sur la suite. Mais notamment sur le fait de l'œuvre ultime et cet aspect de se dire aussi que simplement le fait même d'imaginer une œuvre où on n'utiliserait aucun biais de société, aucune culture existante, en fait on sait très bien pertinemment quand on a pris conscience de tous ces facteurs-là qu'on ne pourrait pas toucher le public, parce que le public a besoin aussi, nous-mêmes on a besoin de se raccrocher sur des choses qu'on connaît, et que si on crée un monde complètement imaginaire avec des règles à soi, avec en contredisant les lois de la science, de notre pop culture, de notre morale, etc., les gens n'y adhéreraient jamais parce qu'ils ne pourraient pas s'y projeter. Et donc l'œuvre ultime, détruisant complètement les codes, ne peut pas exister. Il y aura toujours une part de code dans chacune de nos œuvres finalement. J'aurais bien aimé continuer de discuter de ça, mais j'ai promis donc des questions-réponses, et je pense que voilà, s'il y a des gens qui sont motivés, il semblerait, on pourrait commencer.
Oui, du coup, quand le jeu détourne nos codes, en fait, c'est que du coup, j'ai pensé à un truc comme par exemple, on dit souvent qu'en fait, que les Vikings, c'est des pillards, des trucs comme ça, puis qu'ils sont, d'après la culture populaire, en fait, qu'ils ont souvent casse la corne, en fait. Mais du coup, en fait, si on détourne nos codes dans un jeu vidéo, ou un roman en fait qui fait que toutes les cultures. Toutes les cultures en fait celtiques, nordiques en fait viendraient d'une culture, un truc comme la tradition primordiale qu'on appelle tradition primordiale et hyperboréenne en fait, ce que j'ai entendu parler. Du coup, en fait, si j'ai pensé à ça, en fait, c'est que du coup, ça va détourner les codes, en fait, qu'on connaît sur les civilisations de l'Europe, sur la civilisation celtique, nordique, en fait, tout ça, en fait, ça détournerait d'une manière tellement un peu étrange, en fait, que la plupart d'entre nous n'auraient pas pensé, en fait.
Je suis pas forcément sûr de bien comprendre. Où tu veux en venir, mais
en fait, disons que si je pense si je pense à ce truc en fait comme ça de tradition qu'on dit hyperboréenne en fait, c'est que ça déforme en fait tout ce qui est celtique, nordique en fait, que ça descendrait de cette civilisation en fait, c'est que en fait ça pourrait déformer, c'est comme si on fait un jeu sur ça. Ça a déformé le code que la culture populaire croise en fait sur les civilisations de l'Europe. Par exemple, les jeux le setting c'est nordique, mais qui est cette vérité qu'on dit hyperboréenne en fait, c'est que du coup, ce jeu en fait va donner une nouvelle perspective. Comment seraient en fait les civilisations En fait, ce jeu n'est pas encore prévu actuellement parce qu'on ne sait pas vraiment comment c'est. Mais après, si on sait vraiment comment c'est, bah, peut-être que la perspective, bah, ça va être détourné en fait. Ce n'est pas encore actuellement, mais on n'en sait pas encore comment ça sera en fait. C'est juste ma manière de poser la question en fait.
De toute façon, à partir du moment où on va créer une nouvelle œuvre, à chaque nouvelle œuvre, on va apporter une nouvelle chose, apporter un nouveau point de vue, un nouveau biais, et comme on disait tout à l'heure, enfin chaque nouvelle connaissance va contredire les anciennes, chaque nouvelle œuvre du coup va prendre nos connaissances et les détourner à nouveau, etc. On est dans une continuité comme ça où ce qu'on sait n'est plus le cas demain, etc.
C'est bien de se questionner tout le temps. Ouais. Après, faut pas contredire, pas forcément à chaque fois, parce que dire, mais
forcément le cas.
Au moins de questionner à chaque fois, de dire, bah, est-ce qu'on est sûr, voilà, de quoi on est sûr. Après, si on commence à revenir sur le fait que la Terre est ronde, etc., c'est sûr que c'est plus complexe.
Mais pourquoi pas.
Là-dessus, il y a un jeu qui le fait, hein, en conservant d'autres biais, notamment du patriarcat, etc. Mais Crusader Kings 2 est un excellent exemple de jeu où on peut refaire sa civilisation nordique, justement, en réformant la foi nordique, en instaurant une égalité homme-femme, etc. On peut le faire dans ce genre de jeu. Après, là, justement, la puissance de ce genre de jeu, c'est de permettre aux joueurs et aux joueuses d'aller forger sa propre petite civilisation qui fonctionne avec ses codes choisis, qui permet à d'autres de rester avec celles qui ont historiquement existé, et donc ça permet un choix des chemins.
Est-ce que ouais, vous pouvez
Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question par rapport au mécanisme du jeu vidéo. Pour vous, ce serait quoi le meilleur moyen d'amener le joueur à se questionner justement sur ses codes, sur sa morale, en utilisant les mécanismes du jeu vidéo par rapport aux mécanismes, par exemple, du cinéma ou de la bande dessinée ou du jeu vidéo spécifiquement ?
Déjà, tu peux faire la différence entre le jeu vidéo et les autres œuvres ?
On peut faire la différence entre le jeu vidéo et les autres œuvres. Je pense qu'un des éléments centraux sur lequel beaucoup de gens s'accordent, c'est de dire que dans le jeu vidéo, on a une place qui est différente. On est beaucoup moins spectateur que, par exemple, au cinéma ou dans un livre. On a notre place qui est créée, qui est forgée par les gens qui ont conçu ce jeu vidéo, qui nous donne une voix, qui nous donne souvent le droit d'agir sur ce monde. Et du coup, c'est sur cette différence majeure que... on va avoir des différents leviers, en fait, différents moyens d'amener les gens à notamment à la notion d'immersion, qui est un gros mot dans le monde du jeu vidéo. Mais du fait qu'on ait une place centrale en tant que joueur, qu'on soit pas juste à l'extérieur en train de regarder ce qui se passe dedans, mais qu'on soit souvent au milieu même de l'action, tout ce qu'il y a dans un jeu vidéo va nous aider à rentrer dans cet univers. La manière dont on va justifier pourquoi nous et pas quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce qu'on joue ce héros, dans quel univers on se place et comment il nous est représenté, tous ces éléments vont rendre le monde aussi réel que possible, donc nous faire croire à ce qu'il est en train de nous raconter. Et puisqu'on y croit et puisqu'on est dedans, les actions qu'on va entreprendre vont avoir un vrai poids, et ce sera pas simplement la seule action que j'ai à faire avec un livre, c'est tourner la page finalement. Et les actions qui sont entreprises par les héros qui sont déjà dans cet univers, elles sont entièrement détachées de ce que moi je vais faire. C'est pas le cas dans le jeu vidéo, et donc ça amène à une réflexion qui est, alors est-ce qu'elle est meilleure ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas elle est différente. Et c'est là-dessus que je joue la plupart des jeux, je pense, quand ils essaient de nous.
Ouais, c'est toujours aussi l'histoire de la cohérence entre les actions et finalement le message qu'on veut porter. Il y a toujours cette histoire, mais qui est valable aussi dans le cinéma. Hein. Si on veut propager un message de paix en tuant 10 000 personnes et en faisant tuer aux joueurs 10 000 personnes, ou alors si GTA se mettait à avoir un discours sur est-ce que c'est bien de tuer des prostituées, alors que dans le jeu on peut le faire, il me semble qu'il y a eu le même problème dans Red Dead Redemption 2 récemment, où finalement on se questionnait est-ce qu'on devrait avoir le droit de tuer tout le monde. Oui, mais il s'avère qu'il y a des gens qui sont plus susceptibles, des PNJ qui sont plus susceptibles d'être tués par les joueurs et les joueuses dans le jeu, et que c'est un message en soi. Donc est-ce que tout message finalement qui voudrait être un impact social, il est un peu vain, parce qu'on incite le joueur ou la joueuse à faire spécifiquement le truc qu'on voudrait critiquer, donc ça marche pas. À l'inverse, si on a un design qui est orienté vers l'empathie, qui est orienté vers le fait de faire, vers la responsabilité du joueur et de la joueuse, et le fait de se faire poser des questions. Alors là, il n'y a pas forcément de recette miracle, il y a plein de façons d'y arriver, mais potentiellement, les graines semées, elles seront beaucoup plus fertiles.
La principale différence qu'on va avoir dans tous les cas, c'est cet aspect de quatrième mur que le joueur franchit, à contrario de beaucoup d'œuvres, où on regarde par une fenêtre, le jeu est considéré comme une porte plus ou moins cohérente et plus ou moins immersive. Plus la porte est grande et nous permet de rentrer facilement, et plus on s'y trouve bien quand elle est fermée, plus elle est efficace. Et après, il y a cette question de, finalement, nous, contrairement à un livre qui nous délivre sa pensée telle quelle, un jeu vidéo, on est acteur, et donc il y a cette espèce de... On a plein d'outils hyper vastes de gérer des actions des joueurs, les autoriser ou pas par les règles, et c'est ça, au final, qui va être nos outils pour transmettre les questions, nos questions, critiquer la morale ou pas. C'est ces outils-là, il y en a plein, et justement chaque outil pour chaque raison, en pleine conscience de ce qu'on fait, je suppose, c'est comme ça que je le vois, et de réfléchir à simplement quel outil j'utilise pour dire quoi, pour laisser le joueur faire quoi.
Je pense que là où d'autres formes de narration vont nous montrer des choses, c'est vraiment le cas du cinéma pour le coup. T'assois sur ton siège et tu vois quelque chose, donc l'œuvre essaie de te montrer quelque chose. Il y a deux grosses manières de faire passer un message avec ça. Il y a l'exemple et il y a le contre-exemple. Le gentil, il a battu les méchants, et du coup ce qu'il fait c'est gentil, et du coup tu peux associer ce que le héros a fait à quelque chose de bien. Et inversement, le contre-exemple, les méchants ils ont fait ça, c'est pour ça qu'ils sont méchants, du coup ne le fais pas. Il y a sûrement des tas d'autres outils beaucoup plus subtils que ça dans le cinéma, mais en tout cas, du fait qu'on puisse montrer des choses, on va montrer des choses bien, des choses pas bien, et associer ça à différentes idées. Le fait d'avoir une place au milieu de tout ça, de choisir si on veut le faire ou pas le faire, d'avoir peut-être différentes manières de le faire, ne pas le faire, de se montrer à soi-même des choses, parce que finalement, c'est nos actions qui vont nous permettre de voir les choses ensuite. tout ça, ça vient interroger cette notion d'exemple et de contre-exemple, et ça vient remettre en perspective des tas de choses, et ça crée une multitude d'outils qui sont autrement plus riches que simplement les gentils sont gentils parce qu'ils ont fait ça, donc c'est bien.
Au-delà de l'adage féministe que tout est politique, mais les systèmes de jeu en soi sont structurellement des outils politiques et des systèmes politiques de répartition de la parole, d'agencement d'une certaine narration ou non, quoi. Et c'est par ces structures politiques qu'on a en soi un message. Le récit qu'il y a autour, l'enrobage, s'il va avec, c'est tant mieux, mais c'est pas ce qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est vraiment la façon dont les joueurs et les joueuses vont pouvoir s'approprier le jeu et ce qu'ils vont y faire. Et là, on a un réel propos politique, en fait.
Ouais, y a cette question où presque les mécaniques sont plus porteuses de propos, en tout cas secondaires, insidieux, limite de choses très riches dans le fond. C'est-à-dire il y a la première partie qui va être l'emballage, qui va être le scénario qu'on va mettre, etc., d'apporter quelque chose, mais il peut être complètement contredit et abattu par rapport à ce qu'on laisse faire aux joueurs et l'interactivité. Cette chose en plus qu'a le jeu vidéo, finalement, va être beaucoup plus impactante d'un point de vue moral, d'un point de vue implication et message pour le joueur.
On parle de jeu vidéo, mais c'est vrai pour le jeu en général. Ouais. Et le jeu de rôle est si bien nommé parce qu'il fait exactement ça. Dans n'importe quel jeu où on va te dire tiens, joue avec ces gens et fais comme si tu étais, je sais pas, tel personnage en train de faire telle action. Le personnage et l'action en eux-mêmes sont probablement importants, mais ont moins d'importance que le fait que tu sois en train de coopérer avec des gens, que tu sois en train de faire une activité avec d'autres personnes dans un but commun. Et là où un jeu de rôle va te permettre de travailler peut-être des notions de coopération, de travail d'équipe, c'est pas parce qu'ils t'ont montré des elfes et des nains et des humains dans les mines de la Moria, c'est parce qu'ils t'ont avant tout fait travailler avec d'autres gens, en fait.
Ça nous renvoie au jeu dont je parlais tout à l'heure, Monster Heart, où le principe, on joue 5 lycéens ou lycéennes dans un lycée, ils sont monstrueux, monstrueuses, et mécaniquement, étant donné qu'on en a que entre 4 et 6, qu'on veut qu'il y ait le plus de drama possible, bah, c'est écrit texto dans les règles du jeu, l'hétérosexualité va voler en éclats très très vite, parce que comment on peut générer du drama, des conflits, etc., le plus de conflits au mètre carré entre un groupe de 5 jeunes gens, eh ben, il faut qu'au bout d'un moment, il y ait des couples qui soient beaucoup plus dynamiques que le fait d'en avoir certains d'un côté et certains autres de l'autre, quoi. Et ça, c'est de la structuration politique établie par le système de jeu, par sa structure.
Ça serait bien si on pouvait prendre une dernière question très rapide.
Du coup, pour reprendre sur la morale, vous insinuez par exemple qu'une personne qui crée un jeu va être moralement plus impliquée dans le découlement auprès de son public que par exemple un réalisateur sur un film ou quelque chose comme ça, parce qu'il fait prendre de part aux joueurs dans les actions qu'il va produire.
Pas particulièrement. Je pense que... Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Je pense que c'est aussi le cas pour le cinéma. Le fait qu'on fasse prendre part à l'œuvre dans le jeu vidéo n'influe pas sur le sens moral qu'il y a dans la création, ni sur la responsabilité qu'on va avoir. J'ai tendance à penser que le cinéma s'est à peu près habitué à devoir respecter un certain sens moral depuis plusieurs années.
On reprend l'exemple du Joker, où il arrive. Exemple du film du Joker, il arrive à prendre un personnage qui est quand même complètement taré, qui fait des actes odieux, et on a de l'empathie pour lui. En même temps, il fait des choses atroces, et en même temps, il crée un soulèvement populaire qui est très important, etc. Donc, on n'arrive pas, en sortant du film, à... Est-ce qu'il est méchant ? Est-ce qu'il est gentil ? Est-ce qu'il a fait bien ? Est-ce qu'il a fait mal ? Voilà. Donc, là, c'est un bon exemple, mais c'est pas plus. Ça dépend des réalisateurs, ça dépend des créateurs de films.
Moi, je me méfie beaucoup de la morale et j'aime pas trop ce mot-là pour une simple raison. Pour moi, la morale, c'est un système de domination comme un autre. Le mot bad en anglais, étymologiquement, c'est un mot qui, au Moyen-Âge, désignait, si on s'en fie à la définition étymologique, homme efféminé, hermaphrodite, quoi. Donc, au bout d'un moment, à partir du moment où on définit, et je précise que ces définitions C'est les définitions que j'ai trouvées sur Google, j'aurais utilisé d'autres mots, mais le principe, c'est qu'au bout d'un moment, on a catégorisé les gens, les comportements, etc., en disant ça c'est bien, ça suit les hiérarchies, les structures sociales qu'on veut promouvoir, et ça c'est pas bien, regardez, boubou, ne faites pas comme ça. Et on a littéralement défini la notion de mal sur des catégories de personnes, plus que l'inverse. Donc moi j'aime pas voir les choses en notion bien, mal, moral, etc. J'aime parler de droits humains, parce qu'on a aujourd'hui réussi à coucher sur le papier des choses qui ont trait à la dignité humaine, et pour moi c'est de ça dont on peut pas débattre, de la dignité humaine. Et pour moi c'est ça qui est vraiment intéressant comme objet, comme concept aujourd'hui.
Sauf si tu veux rebondir en une phrase, je te laisse faire.
Juste pour pouvoir terminer sur la question qui a été posée. Dans le cinéma par exemple, c'est beaucoup plus encadré aujourd'hui. Les personnes qu'on va pouvoir montrer à l'écran, ou qu'on doit montrer à l'écran, beaucoup plus que dans le jeu vidéo par exemple, même si c'est en train de changer, ce serait bien que ça change encore plus vite, mais dans le cas du cinéma proprement, ouais, ce sens de il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, c'est beaucoup plus ancré que dans le jeu vidéo. Ça veut pas dire qu'il y en a un des deux qui est plus important que l'autre, ou dans lequel les créateurs ont une responsabilité plus importante. Je pense que c'est la même, c'est juste que c'est deux médias qui sont pas aussi anciens l'un que l'autre, simplement.
Bon, ben on va arrêter là pour respecter les temps, et puis ben j'espère que voilà, nos discussions vous auront intéressé, que vous allez passer un bon festival, et puis qu'on se revoit pour avec Jérôme notamment pour une prochaine conférence, en tout cas sur le jeu vidéo dimanche. Et puis ben merci à vous pour la discussion.
Merci.
Je vous souhaite une bonne soirée.